podcast France Culture.
En politique comme en sport, notre invité est un coureur de fond. Écologiste, dès les années 70, il n'a jamais varié de famille politique, mais quatre fois d'étiquette au gré des changements de nom de son parti. Avocat de profession, il défend Noël Mamère ou José Bové, dont il obtient des amendes pour les OGM fauchés en lieu et place de la prison. Mais il refuse de s'engager en politique tant qu'il n'est pas indépendant financièrement. Alors ça a pris du temps. En 1995, il est élu conseiller municipal de gauche, dans une mairie éternellement à droite. Le temps long, les petits pas, pas de coup d'éclat, à part à ses dépens. Adepte de la sobriété, il prend le temps dans une époque qui va trop vite à ses yeux. Alors il lit Régis Debray, Voltaire ou Charles Péguy. Et quand il a des insomnies, c'est France Culture qui l'écoute. Il cultive son style, porte des baskets en toutes circonstances, ce qu'il fuit à tout prix, la politique spectacle. Il est un homme de record, 20 km tous les samedis. Et le plus important, en 2020, pour la première fois de l'histoire bordelaise, il impose un second tour aux élections municipales qui n'en avait jamais connu depuis la Libération. Le territoire, c'est important pour ce petit-fils de communiste fabricant de chaussures. L'accent chantant, basque et bordelais, il est désormais le locataire du Palais Rohan sur la place Péberlan. Bonjour Pierre Urmic.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier maire écologiste de Bordeaux depuis 2020 et le premier maire de la saison que nous recevons dans Sens Politique. Il était temps. Et merci à vous de nous écouter. Vous êtes sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Est-ce que votre parti viole les principes fondamentaux de l'état de droit ?
Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et moi, j'ai toujours placé aussi, je vous dirais, au-dessus des lois de la cité, les lois de l'humanité. Mon cabinet d'avocat s'appelle Antigone, c'est pas un hasard, c'est un attachement très fort à ce que je considère comme étant les lois de l'humanité qui parfois, à mon sens, au nom de ce qu'est ma conscience, transcendent les lois ponctuelles de la cité. Donc je reconnais que c'est un peu transgressif, mais en tout cas, j'ai toujours placé la conscience au-dessus de la consigne, y compris la consigne légale.
Je vous pose la question en ces termes, puisque Julien Bayou, l'ancien numéro 1 des écologistes, vient de démissionner du groupe et du parti après une plainte déposée contre lui par son ex-compagne pour harcèlement moral et une enquête externe diligentée par le parti après l'échec de l'enquête interne. Donc vous, l'avocat, vous trouvez que cette procédure est tout à fait acceptable et correcte?
Alors, les partis politiques se doivent d'être exemplaires et se doivent de se doter de règles internes. Et je trouve qu'à l'heure où le harcèlement est devenu quand même un fléau, je trouve tout à fait normal et salutaire que les partis politiques se dotent de règles en matière de protection, notamment des femmes, mais pas que, contre le harcèlement. Je trouve que quand on fait de la politique, quand on dirige une organisation politique, on se doit d'être exemplaire sur ce terrain-là.
Même s'il était innocenté?
Alors, la présomption d'innocence, c'est un autre débat. Là, ce ne sont pas forcément des infractions pénales. Il y a des règles internes. Quand on les viole, il est normal que l'on soit sanctionné. Après, il y a aussi, vous appeliez l'état de droit. Et dans l'état de droit, je mets la présomption d'innocence. Et c'est évident que tant que vous n'avez pas été définitivement condamné pour une infraction pénale, vous êtes et vous demeurez innocent. Et l'avocat que je suis est très attaché, se battra jusqu'au bout pour la reconnaissance de la présomption d'innocence. Mais il ne faut pas mélanger les sujets. Là, on est sur la violation d'un certain nombre de règles internes, de règles de morale, internes à une organisation politique. Et je crois que les hommes politiques se doivent, sur ce terrain-là, comme sur d'autres, d'être exemplaires.
Quelle règle de morale ?
Mais le respect. On respecte les autres. C'est le respect élémentaire que l'on doit à son prochain, à son voisin, et que les hommes doivent naturellement aux femmes. Et je trouve que les pratiques du harcèlement sont des pratiques de notre âge et qu'il faut se doter de moyens efficaces pour y mettre un terme.
Alors la campagne pour les élections européennes semble patiner chez les écologistes. Y a-t-il, à vos yeux, Pierre Urmic, un problème de stratégie ?
Alors, vous le savez, puisque vous avez un peu épluché ma biographie, je me mêle relativement peu des affaires nationales du parti. D'abord parce que je me sens pas forcément très compétent. Moi, j'ai vraiment privilégié l'action locale, parce qu'on y reviendra. Et je m'implique peu dans les stratégies nationales du parti, ce qui ne m'autorise pas forcément à être l'observateur le plus qualifié pour critiquer ce que font les uns et les autres. Moi, j'ai confiance en Marie Toussaint. Je considère que l'élection européenne doit être un moment privilégié pour faire valoir nos convictions écologistes. C'est un mode de scrutin qui, traditionnellement, nous est favorable. L'échelon européen est aussi un échelon pertinent pour se doter de règles protectrices de la planète, de l'environnement et de la biodiversité. diversité. Et je souhaite que cette campagne, qui n'a pas encore vraiment démarré, elle est un peu polluée par des débats parallèles. Je pense que le président Macron, qui a peur d'être désavoué à l'occasion de ces élections européennes, fait tout ce qu'il faut pour allumer des contre-feux, pour essayer de limiter les dégâts face au Rassemblement national, alors que parallèlement, il fait tout pour propulser cette famille politique, pour en faire son adversaire numéro un. Donc je trouve pour le moment, cette campagne électorale, elle est terne, et je souhaite vraiment qu'elle démarre vraiment, et que l'écologie soit au cœur de cette campagne, comme elle est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Et là, sur ce terrain-là, je pense que Marie Toussaint me paraît la plus qualifiée pour défendre ces idées-là.
Vous disiez dans la Tribune le 21 septembre 2023 « Je déteste l'écologie punitive. Je suis un écologiste modéré, mais pas modérément écologiste. » Est-ce que vous ressentez, Pierre Urmic, la nécessité de vous différencier de certaines figures de votre parti ?
C'est pas que je sens, c'est que naturellement je suis différent de beaucoup d'autres. Mais bon, ce qui l'intérêt de l'écologie, y compris l'écologie politique, c'est aussi sa biodiversité. On est différent et on travaille ensemble. Moi, je suis très reconnaissant au parti de toujours m'avoir laissé cultiver cette singularité, cette liberté. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que un homme de parti est une partie d'homme. C'est une formule que j'ai empruntée à celui qui est mon maître, Jacques Ellul. Donc j'ai jamais voulu être une partie d'hommes, mais en même temps, heureusement qu'il y a des gens qui acceptent de s'investir dans l'action politique. Je n'ai aucun patriotisme d'appareil sur le terrain politique. Je pense que les partis politiques concourent à la vie politique. À mon avis, ils concourent de moins en moins, mais ils y concourent quand même aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent de leur temps pour faire vivre ces partis politiques. C'est pas le choix que j'ai fait. Je considère ceux qui choisissent peut-être un conformisme d'appareil sont aussi respectables que ceux qui choisissent d'autres voies. Mais cela m'interdit pas d'avoir, je crois, une bienveillance par rapport à tous mes camarades qui prennent sur leur temps pour faire vivre le parti politique.
Alors vous êtes un écologiste modéré, dites-vous, mais vous avez aussi été un adepte de la désobéissance civile ou des actions coup de poing qu'on connaît bien chez les écologistes. Quand vous étiez l'opposant d'Alain Juppé, vous avez fait pêle-mêle un Daïn, semblant d'être mort devant la Cité du Vin pour dénoncer la marchandisation de la ville. Vous êtes enchaîné à 6h du matin au marronnier de la place Gambetta face aux tronçonneuses municipales pour empêcher les arbres d'être abattus. Et puis vous êtes venu arroser chaque semaine le poirier que vous aviez planté devant le nouveau stade des Girondins pour dénoncer le rachat du club par un fonds d'investissement américain. C'est Le Monde qui rappelait ces trois éléments de votre biographie.
Oui, le dernier mérite d'être nuancé, le poirier que j'ai planté face au stade, c'était surtout pour protester contre la construction d'un grand stade inutile de 43 000 places qui a endetté la ville pendant 30 ans et qui avait réuni tout le gotha du show business politique et sportif. Et le jour même, j'ai planté un poirier rebelle en face pour dire vraiment l'avenir me paraît davantage à la végétalisation de notre ville plutôt qu'à sa bétonisation, tant plus que ce stade avait été implanté sur une SNIEF, c'est-à-dire une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. Donc j'ai voulu vraiment protester par cette façon-là. Mais tous ces actes de résistance que vous citez, chaque fois j'ai privilégié et j'y tiens la non-violence. Je suis vraiment fondamentalement un non-violent, adepte de Gandhi, de Lanza del Vasto et d'autres qui m'ont aidé à travailler sur ce terrain-là. J'ai défendu beaucoup d'objecteurs de conscience à l'époque où la conscription était obligatoire. Donc je suis très attaché à cette forme de résistance pacifique.
Mais ce sont des méthodes qui fonctionnent, à votre avis? C'est beaucoup ce qu'on reproche à Marie Toussaint, votre candidate pour les européennes, d'avoir fait le booty thérapie, la danse sensuelle du bassin pour lancer la parole, une chorégraphie devant Total Energy. Est-ce que l'écologie politique doit se résumer à l'activisme?
Non, mais elle se résume pas à l'activisme, mais le rôle de l'écologie politique, c'est aussi de faire incuber ce que j'appellerais la révolution des consciences. Et pour ça, il faut des actions fortes, comme celles qui sont engagées. Je pense que ça passe aussi par cette incubation obligatoire des prises de conscience et tout ce qui peut aller dans ce sens-là, je vous avoue, j'approuve avec, je le redis, la limite à ne pas franchir, pour moi, c'est la violence.
Et depuis que vous êtes maire de Bordeaux, vous avez arrêté ce genre d'action, j'imagine?
Mais c'est un peu l'arme du pauvre, ce genre d'action. C'est-à-dire, quand vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir. Donc, je serais malvenu d'utiliser d'autres armes. Je n'ai aucune excuse pour ne pas exercer les fonctions qui m'ont été confiées.
Sur l'arbre mort de Noël de la place Péberlan, Nous mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Péberlan. Hein, vous gardez ce souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc c'est pas du tout notre conception de la végétalisation. En ce qui concerne les outils réglementaires, fin 2020, nous adopterons ce qu'on appelle la charte des droits de l'arbre, qui est un règlement de protection des arbres qui n'existe pas. Donc d'ici à fin 2020, cette charte des droits de l'arbre sera adoptée.
C'est vous qu'on entend, Pierre Urmic, pour cette première archive qui date de 2020.
Vous avez reconnu.
Elle vous fait rire ?
Oui, sur le coup, ça m'a pas fait rire du tout. Quand on parle des suites qu'engendrer, c'est une expression malheureuse par rapport à ce que j'ai appelé un arbre mort. Mais en même temps, ce que je voulais dire, de façon maladroite, je le reconnais, c'était mon attachement au vivant. Voilà, un arbre, pour moi, c'est pas un arbre coupé, c'est un arbre vivant. Et nous, écologistes, nous soucions beaucoup de la planète, mais aussi du vivant. Et dans le vivant, il y a la biodiversité, il y a la nature. Et pour moi, couper un arbre, mettre un arbre coupé, c'est plus élégant qu'un arbre mort. Un arbre coupé sur une place, je trouve que c'est pas mettre en valeur le vivant. Et depuis, alors, vous vous rappelez cet épisode qui a été assez douloureux pour moi, parce que j'ai essuyé une campagne de presse et une campagne sur les réseaux sociaux largement alimentée par mes opposants politiques, qui a été, je veux dire, assez indigne. Elle finit en menace de mort pour moi, pour ma famille.
Sur les réseaux sociaux?
Ah oui, vraiment. Des lettres. Des lettres de la France entière. On sait où tu habites. Oui.
Qui arrivait à la mairie.
Ça a été, oui, qui arrivait.
Vous n'en avez pas du tout parlé.
Des pétitions du monde
entier.
Mais non, j'ai voulu être discret. Aujourd'hui, peut-être j'en parlerai, parce que le contexte aujourd'hui de violence vis-à-vis des élus est beaucoup plus aigu que celui qu'il était à cette époque-là. C'était en 2021. Mais donc aujourd'hui, j'en parlerai. Mais à l'époque, j'en ai pas parlé, mais je vous cache pas que ça a été extrêmement, extrêmement douloureux d'être réduit un peu l'homme du sapin. Et bon, mais voilà, donc vous rappelez cet épisode, puis j'ai l'habitude d'assumer mes erreurs, j'ai employé une expression que je reconnais parfaitement maladroite.
C'était votre première conférence de presse en tant que maire de Bordeaux, on est le 10 septembre 2020.
Enfin, c'était pas la première, mais l'une des premières, oui.
Voilà, pour la première conférence de rentrée en tout cas, vous diriez qu'aujourd'hui vous avez changé au bout de 4 ans à la mairie?
J'ai toujours un franc-parler, là. J'étais victime un peu de mon franc-parler. Je crois avoir toujours conservé un franc-parler, mais j'évite, d'utiliser certains mots en passant qui peuvent choquer. Ces mots ont choqué, ils ont blessé. Et voilà. Donc, je reconnais leur caractère maladroit. Mais en même temps, je trouve que la tempête médiatique que ça a suscité me paraît largement disproportionnée. C'était vraiment de l'écolo-bashing. On voulait vraiment se payer le maire de Bordeaux qui venait de gagner une élection importante après 73 ans de vie politique de droite à Bordeaux. Donc voilà, on a voulu se le payer, on a monté en épingle cette affaire qui a pris des proportions assez ahurissantes, mais c'est derrière nous.
À l'époque de cette déclaration, le maire de Lyon, autre écologiste Grégory Doucet, s'oppose au passage du Tour de France dans sa ville en disant que c'est machiste et polluant. La maire de Poitiers, écologiste Léonore Monconduit, veut supprimer des subventions à un aéroclub. Toutes ces décisions, comme vous le rappeliez, étaient très critiquées. Était-ce à votre avis des maladresses de début de mandat ou simplement une culture politique qui était en train de changer?
Il y a un peu de deux. Faut toujours être réveillant vis-à-vis des mots. C'est vrai que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde, disait Camus, il avait raison. Donc il faut toujours qu'on soit très vigilant sur le choix des mots que nous employons et surtout de ne pas employer des mots qui peuvent heurter. Vous parliez du Tour de France, mais c'est assez amusant comme comparaison, parce que moi je suis aussi le maire de Bordeaux qui a fait revenir le Tour de France à Bordeaux après 13 ans. Il a vraiment fallu que j'aille m'agripper au directeur du Tour de France, Monsieur Prudhomme. En tout cas, c'est lui qui le raconte comme ça. J'ai même franchi des barrières, un peu la transgression. Je suis allé à une arrivée d'étape à Libourne. Quand j'ai vu qu'il était en femme, j'ai escaladé les barrières. C'était rigoureusement interdit, naturellement, pour vraiment pouvoir l'apostropher. Il a été très étonné. Et il s'est dit, mais voilà au moins un maire motivé. Et je suis allé lui dire, monsieur le directeur, je veux le Tour de France à Bordeaux. Je suis écologiste. Je veux le Tour de France à Bordeaux où il n'est pas revenu depuis 13 ans. Mais on a discuté, très bonne relation. Et voilà, j'ai obtenu que le Tour de France revienne à Bordeaux. C'est la promotion du vélo aussi. Je suis très attaché au vélo. Et j'adore le Tour de France.
Vous vouliez être coureur du Tour de France quand
vous étiez quand j'étais tout petit, je crois que je faisais du vélo presque avant de savoir marcher. J'ai toujours été très attaché au vélo. J'ai fait beaucoup de vélo dans l'école pyrénéen. Et voilà, je fais encore du vélo, mais c'est un sport que j'aime beaucoup. Et donc, je suis passionné par le Tour de France. Et j'étais très heureux de ramener à Bordeaux une joie que vous n'imaginez pas lorsque les coureurs du Tour de France sont arrivés dans notre ville.
Vous ne le trouvez pas machiste et polluant?
Non, je trouve que c'est surtout un, c'est un sport, mais qui doit évoluer, qui doit évoluer. Je peux vous dire que sur le plan de la pollution, quand j'ai discuté avec le directeur, les premières choses que nous avons mis en avant, c'était comment travailler ensemble pour réduire les pollutions. Et il y a des efforts incontestablement qui sont faits pour que le Tour de France pollue beaucoup moins qu'avant, et il le fait. Il y a le Tour de France féminin aussi, et je serais heureux d'accueillir aussi à Bordeaux une étape du Tour de France féminin. Donc voilà, le Tour de France, vous me ferez pas dire du mal ici à cette antenne du Tour de France, j'y suis trop attaché.
L'une des premières décisions que vous prenez quand vous arrivez à la mairie, c'est de nommer une première adjointe chargée des finances et du défi climatique. Pourquoi était-ce important pour vous de mélanger ces deux postes ?
Alors, élue aux finances, c'était très traditionnel, c'était une élue en charge des finances, s'appelle Claudine Bichet. Elle est aussi élue à l'égalité femmes-hommes.
Défi climatique. Les trois casquettes.
Oui, trois, voilà. Finance, égalité femmes-hommes et défi climatique. On va parler du défi climatique, puis celui que vous évoquez. Pour moi, il était important que toutes nos politiques municipales, tous nos investissements soient examinés à l'aune de leur impact climatique. C'est-à-dire, quand on prend une décision, ça passe obligatoirement par l'adjointe en charge de finances, mais on regarde quelles sont les répercussions climatiques de ce projet, de cet investissement. Et je vous promets que ça change tout. Vous savez, moi, il m'arrive de discuter avec des ministres, le transport, l'environnement et d'autres, et je me rends compte que chaque fois, le blocage, c'est Bercy. Il me dit, ah oui, ça c'est une bonne idée, mais il faut que ça passe entre les mains de Bercy, j'ai envie de dire, entre les mains comptables de Bercy. Si vous mettiez Bercy en charge de la transition écologique, je vous promets que vous supprimeriez cet obstacle majeur à la transition énergétique de notre pays. Mais à Bordeaux, ce pas-là, on l'a franchi. Mais Bercy, c'est entre les mains de la responsable du défi climatique. Pour moi, c'était c'était pas du tout symbolique, d'autant plus que ça correspondait au moment où on a décrété l'urgence climatique à Bordeaux. Moi, j'ai dit, on va se doter d'outils pour faire de l'urgence climatique à Bordeaux la réponse à apporter immédiatement aux Bordelaises et aux Bordelais. Mais voilà, je pense que ça a été une bonne décision. Je crois savoir qu'on est peut-être la seule ville à avoir une première adjointe en charge des finances et du défi climatique et de l'égalité femmes-hommes. C'est aussi très important dans la déclinaison de nos politiques.
Un sujet dont vous voulez vous emparer, Pierre Urmic, c'est la sécurité. Vous avez changé d'avis sur les vidéosurveillances. Quand vous étiez dans l'opposition, vous étiez contre. Aujourd'hui, maire de Bordeaux, vous en installez à condition qu'elle soit validée par un comité d'éthique. En quoi ça consiste, une caméra de vidéosurveillance éthique ?
Ça consiste à pas en mettre partout, à voir exactement où elles sont nécessaires. Et surtout, vous rappelez à juste titre que j'étais longtemps hostile aux caméras de vidéosurveillance, parce qu'à un moment donné, souvenez-vous, quand on a commencé à les implanter, c'était une façon de réduire la police de proximité, en disant on a besoin de moins de bleus dans les rues, moins de policiers de proximité, puisqu'il y aura des caméras de vidéosurveillance. Et je trouvais que c'était une imposture. La technique ne remplace jamais l'humain et la présence humaine, que ce soit dans le domaine de la sécurité, comme ailleurs. Donc, j'étais hostile. Et d'ailleurs, maintenant, dans les discussions que je peux avoir avec l'État dans le cadre du contrat de sécurité intégrée, je dis OK pour qu'on pose des caméras de vidéosurveillance, mais en contrepartie, je veux un accroissement des moyens policiers sur le terrain. Je le fais avec ma police municipale, augmenter d'environ 20% la présence de la police municipale sur le terrain. Je trouverais bien que l'État, aussi, au-delà des caméras de vidéosurveillance, alimente, fasse en sorte qu'on ait des effectifs policiers dans les rues de Bordeaux. Ça peut vous paraître un peu iconoclaste pour un maire écolo, mais j'ai vraiment décidé de faire de la sécurité, parce que je suis souvent interpellé sur ce terrain-là, en faire aussi une priorité. Il faut plus de vert dans les rues, il faut aussi plus de bleu, et il faut répondre aussi. Vous savez, la politique... C'est quand ça cogne. Et quand vous êtes maire, vous cognez en permanence à l'actualité, aux préoccupations quotidiennes des gens. Et je considère que vous devez répondre à ces besoins de sécurité. Et je note qu'à Bordeaux, la sécurité a plutôt gagné depuis qu'on est arrivé par rapport à ce qu'elle était avant notre arrivée.
Y a-t-il plus de démocratie locale depuis que vous êtes maire de Bordeaux ?
Oui, j'en suis persuadé. Bon, c'est peut-être pas très difficile, on démarrait de très loin, mais par exemple, on vient de lancer une convention citoyenne pour l'urgence climatique, et on l'a lancé, on a écouté avec beaucoup d'intérêt les propositions qui nous sont faites, en prenant un certain nombre d'engagements. On a également un droit d'interpellation citoyenne. Les citoyens peuvent nous imposer une question à l'ordre du jour du conseil municipal. On consulte beaucoup. Alors, On va dire, si vous interrogez certains, jamais suffisamment, mais voilà.
Parce que le conseiller municipal d'opposition du groupe Renouveau Bordeaux, ouais. Aziz Kali, dit dans le Figaro en octobre, Pierre Urmic n'est pas forcément le plus démocrate des maires. Il ne permet pas à ses oppositions d'accéder aux mêmes moyens de communication que ses équipes.
Il est dans le jeu de rôle politicien. Monsieur Scali est membre du parti En Marche. Ils ont tous les moyens de propagande d'État à leur service, dont ils abusent, y compris localement. On a un ministre.
Propagande d'État.
Oui, ben, c'est-à-dire on a un ministre dans notre conseil. C'est ce que je veux dire. On a un ministre dans notre conseil municipal.
Thomas Cazenave.
On ne peut pas le nommer. Voilà.
Ministre des Comptes Publics.
Oui, mais qui est le porte-parole. Porte-parole du gouvernement. Il vient au conseil municipal pour apporter ce que j'appelle la propagande gouvernementale. Son rôle se réduit à ça. Faire endosser aux collectivités locales, surtout depuis qu'il est ministre des Comptes Publics, il veut faire payer aux collectivités locales de l'argent qui correspond aux fonctions régaliennes de l'État et qui doivent être assumées par l'État. Donc,
vous l'accusez aussi de bloquer d'ailleurs le contrat de sécurité dont vous parliez à Beauvau pour des raisons politiciennes locales.
Mais bien sûr. Je m'étonnais de savoir pourquoi est-ce que ce contrat de sécurité intégré, il est depuis pratiquement un an sur le bureau du ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, que chaque fois que je le vois, il me dit, mais ça y est, on avance, on va pouvoir bientôt le signer, ça n'avance pas. Bah, j'ai appris récemment, alors, par une indiscrétion, qu'il fallait que ce soit avalisé par Monsieur Cazenave, au motif qu'il est ministre, et surtout au motif qu'il est élu d'opposition à la ville de Bordeaux, et qu'il fera tout pour entraver l'action du maire de Bordeaux, et tout en me reprochant au conseil municipal de ne pas l'avoir signé. Donc, si vous voulez, cette confusion des gens, c'est ça que j'appelle un peu la propagande d'État au sein même de notre conseil municipal. Voilà, moi je suis un Bordelais et parfois j'ai les Parisiens dans les pattes, comme on dit.
À quoi voulez-vous que ressemble la ville de Bordeaux quand vous quitterez la mairie, Pierre Urmic ?
Une ville apaisée, une ville sûre, une ville végétalisée, une ville qui répond à nos impératifs en matière de production d'énergie locale. J'ai d'énergie solaire, de
promotion. Photovoltaïque
sur Bordeaux.
Oui, vous voulez mettre 60 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Oui. Vous allez les mettre où ?
Mais sur les toitures bordelaises, déjà, j'ai...
Sur les quais, sur les immeubles des quais ?
Pas forcément sur les immeubles des quais, parce qu'il y a quelques contraintes avec l'UNESCO, mais qu'on est en train de faire évoluer. Mais même si on ne les met pas là, par exemple, vous avez à Bordeaux, on a une base sous-marine qui date de l'occupation allemande, mais vous avez sur cette base sous-marine une toiture de 25 000 m². Alors, tout n'est pas solarisable, mais au début, la réponse qui nous a été donnée, on dit non, c'est impossible, cet immeuble, vous ne pouvez pas y toucher, c'est un monument historique. Et ben, j'ai réussi, à force de persuasion, à obtenir l'autorisation de solariser la toiture de la base sous-marine de Bordeaux. On commence par 9 500 m², on pourra aller vraisemblablement jusqu'à 15 000 m². Donc si vous voulez, toutes les opportunités de solarisation des toitures bordelaises, je m'en saisis et j'invite aussi nos concitoyens à solariser le plus possible leur toiture.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
Être heureux au moment du départ, c'est tout à fait étonnant, paradoxal, inattendu. Eh bien, c'est grâce à vous, mon cher Alain Juppé, c'est grâce à vous, mon cher collègue Premier ministre, cher compagnon et cher ami.
La voix de Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux pendant 47 ans, qui passe le relais au nouveau maire de la ville de l'époque, le 11 juin 1995, un certain Alain Juppé, alors Premier ministre, élu au premier tour.
Oui.
Qu'est-ce que vous retenez de l'héritage de Jacques Chaban-Delmas, Pierre Urmic, votre lointain prédécesseur ?
Il a transformé la ville. D'abord, il a transformé l'image de la ville. Il est arrivé maire de Bordeaux après la guerre, au moment où l'image de la ville n'était pas l'ancien maire. L'ancien maire de Bordeaux avait été un collaborateur zélé du régime de Vichy. Donc il fallait faire en sorte que cette ville de Bordeaux, qui avait cette image collaborationniste, soit renouvelée. Et Jacques Chaban-Delmas incarnait non seulement la jeunesse, mais la résistance. Donc il a beaucoup apporté à ce moment-là. Il a fait de Bordeaux une grande ville et une grande métropole. Après, tous les héritages peuvent être controversés. Mais je pense que ça a été un grand maire de Bordeaux, naturellement. Serait-ce que par sa longévité, 48 ans, vous le rappeliez. Donc, 48 ans, ça vous laisse le temps de faire beaucoup de choses. Et il a fait beaucoup de choses. Il a ramené Bordeaux dans le concert des grandes villes françaises et européennes. Et nous en avions bien besoin.
Alors, votre opposant, vous avez été l'opposant historique d'Alain Juppé pendant 25 ans, puisque vous êtes élu au même moment de cette archive, c'est-à-dire en 1995. On se demande comment vous avez pu tenir aussi longtemps, vous, écologiste, pendant 25 ans, dans l'opposition. Est-ce que un jour vous vous êtes dit « je serai maire » ou vous n'y croyez pas ?
Si, j'ai toujours pensé qu'il y avait une fenêtre de tir. Et avec humilité, en disant « je ne serai pas même », j'ai dit « il y aura un jour une fenêtre de tir et l'avenir appartient à ceux qui sont déterminés ». J'ai envie de dire « têtu ». Je suis, mes adversaires disent « je suis têtu comme un basque ». Moi, je préfère dire « je suis déterminé ». Et je pensais que voilà qu'un jour, il y aurait une fenêtre de tir. J'avais l'habitude, je me suis présenté à un certain nombre d'élections que j'ai perdues. Chaque soir d'élection, je disais « les soirs de défaite sont des veilles de victoire ». Je me trompais chaque fois, sauf la dernière fois. La dernière défaite a été une veille de victoire. Donc voilà,
vous passez sur le fil, alors que les maires de droite ont toujours été réélus au premier tour. Et vous dites au Monde en octobre 2020, quelques mois après votre élection, j'ai préparé le discours de la défaite, pas celui de la victoire.
C'est vrai. C'est parce que la journée du dimanche m'avait induit en erreur. Je m'étais convaincu qu'il fallait un taux de participation important pour que je sois élu. Un taux de participation plus important au deuxième tour qu'au premier tour. Et le taux de participation était rigoureusement le même à la virgule près. Ce que j'avais pas réalisé, que j'ai réalisé qu'après, c'est que c'était pas le même votant. Le deuxième tour, beaucoup de jeunes sont venus voter. Et beaucoup de moins jeunes, pensant que la victoire était acquise, sont restés chez eux. Donc même taux de participation. Et je note aussi, je suis pas le seul à m'être trompé, le premier sondage sorti des urnes à 20h le soir de l'élection me donnait 7 points derrière le maire sortant. Donc même le sondage sorti des urnes s'est trompé, comme tous les sondages qui sont sortis pendant la campagne, qui me démoralisaient un peu, je vous le cache pas. Tous les sondages me donnaient perdant, mais malgré ça, je pense que ma détermination a payé, puisque j'ai fini par y croire et surtout par gagner.
Le jour de votre victoire, vous recevez 850 textos.
Oui, à peu près, oui.
Mais il y en a un qui n'arrive jamais, c'est celui d'Alain Juppé.
Bon, c'est normal qu'il me félicite pas. Je venais de battre celui qui était destiné à lui succéder, celui dont il avait fait son dauphin. Je sais qu'il a été
Nicolas
amer.
Florian.
Oui, je sais qu'il a été amer, mais c'est une erreur de casting. Il a mal choisi dans cette ville qu'il pensait sociologiquement, politiquement, éternellement acquise. Pour ça qu'ils m'en veulent beaucoup, Nicolas Florian et ses amis, parce que pour eux cette élection, c'était un passage facile. Ça m'a aidé. Ils n'ont peut-être pas fait la campagne que méritait le scrutin. Mais voilà. Mais en même temps, je me suis réconcilié avec Alain Juppé. J'ai tenu à l'inviter à déjeuner à la mairie pour déposer les armes, ou vite après l'élection, je considère que le lendemain de l'élection, il faut déposer les armes. Et il a été très, très, très républicain. Et voilà. Et depuis, j'ai eu plusieurs contacts avec lui. Et
les relations sont bonnes. Récemment, sur un plateau de télévision, il a répondu « Joker » quand on l'a interrogé sur votre bilan.
Ben oui. Ben, il est solidaire quand même de son ancien dauphin, qui est le leader de l'opposition. Je le voyais mal prendre position pour le maire actuel contre mon premier opposant, qui était son dauphin. Donc je trouvais que cette réponse était plutôt pas mal et plutôt digne.
Est-il vrai qu'en 2008, il est encore réélu Alain Juppé, il vous propose d'être son adjoint ?
Mais j'ai pas voulu. D'abord, c'est pas mes convictions. Sa famille politique est aux antipodes de mes convictions politiques. Et je préfère attendre. Le moment venu pour être maire et non pas être adjoint au maire d'une majorité de droite aux côtés de Nicolas Florian et d'autres qui ont des convictions qui sont aux antipodes des miennes. Donc voilà, je n'ai jamais regretté d'avoir refusé.
Une question de Sofiane sur Instagram. Avez-vous conscience que la droite bordelaise est en train de se liguer contre vous ?
Oui, mais il était déjà au moment des élections. Mais oui, je vois, j'ai des campagnes plutôt violentes, virulentes, je dis assez bien relayées par leur allié macroniste. J'ai même deux droites, si vous voulez. J'ai deux candidats de droite actuellement qui sont en campagne des primaires. Nicolas Florian et Thomas Cazenave, l'un est ministre, l'autre ne l'est pas. Ils sont en campagne des primaires. Donc, pour savoir lequel des deux sera tête de liste. Parce que, au dernier moment, comme la dernière fois, ils partiront ensemble, naturellement. Donc, ils sont en train de se livrer une campagne des primaires, mais qui est assez violente, non pas entre eux, mais contre moi. C'est-à-dire, c'est celui qui sera le plus anti-urmique. Je vous cache pas que parfois c'est un peu difficile. Quand il y a un fait divers à Bordeaux, ah mais c'est la faute du maire. Faut divers, c'est la faute du maire. Donc parfois c'est assez difficile à suivre, à supporter. Mais voilà, donc ils sont voilà cette campagne des primaires et puis avec un esprit très revanchard de la droite qui n'a toujours pas admis. J'ai toujours un procès en légitimité. Hein. Je considère d'abord que la participation n'a pas été suffisamment importante. Voilà, quand c'est un maire écolo, on regarde la participation. Quand c'est un maire de droite, on n'a rien à faire.
Il y avait 61% de.
Oui, mais comme partout. Mais voilà, donc j'ai toujours un procès en légitimité. Parce que je les ai privés de ce qu'ils considéraient comme étant une prescription acquisitive, définitive de la ville de Bordeaux. Donc ils m'en veulent beaucoup. Je leur ai aussi, je vais le dire franchement, je leur ai piqué leur job. C'était des professionnels de la politique, ce que je n'ai jamais été. Moi j'ai toujours travaillé, j'ai un vrai métier. Eux non, c'était des professionnels de la politique. Donc non seulement je les ai remplacés, mais en plus je les ai licenciés économiquement. Donc effectivement tout cela entraîne une certaine ardeur dans la contestation. Mais bon, écoutez, on avance quand même et voilà, c'est pas ça qui m'arrêtera.
Vous avez promis de ne pas faire plus de 2 mandats. Oui. Pourquoi rompre avec cette tradition de longévité des maires de Bordeaux ?
Ben non, parce que je trouve qu'à un moment donné, en politique, vous dépensez votre énergie, non plus à innover, mais à durer. Voilà, donc je considère que c'est bien de se fixer une limite. Voilà, je n'ai pas encore annoncé si je ferai un deuxième mandat, donc je ne vais pas vous donner le scoop aujourd'hui à France Culture. Mais
vous hésitez vraiment, Pierre Urmic, qu'on a du mal à vous croire.
Je suis préoccupé par voilà faire mon mandat. Je trouve qu'un maire qui est en campagne électorale, c'est pas bien. Donc un maire, on lui a confié les rênes de la ville pendant 6 ans. Je laisse mes adversaires s'agiter entre eux dans le cas de leur primaire, mais voilà, je veux pas entrer dans cette arène politique. On m'a confié la gestion de la ville. Je crois que je le fais avec sérieux et je le ferai jusqu'au dernier jour du mandat qui m'a été confié. Après, on verra.
Tous les maires de Bordeaux, il y en a eu que 2 depuis le 1947, ont été premiers ministres.
Oui.
Est-ce une ambition que vous caressez aussi ?
Non, parce que je pense que l'époque a changé. L'époque a changé. Certains pensent qu'il faut être adoubé par un gouvernement, être ministre ou être adoubé par un appareil politique parisien pour être ministre, maire de Bordeaux. Ben, je pense que l'époque a changé. Ben, aujourd'hui, ce que demandent nos concitoyens à un maire, c'est de la disponibilité, de la détermination. Et je crois de l'indépendance.
Mais est-ce que les écologistes vont un jour prendre le pouvoir, selon vous, Pierre Urmic ?
Oui, parce que je crois que moi, ma contribution, si vous voulez, au débat national, plus que de penser un jour être ministre ou parlementaire, c'est de dire la réussite locale des écologistes, ça sera vraiment ça la bonne échelle.
Votre laboratoire.
Pour démarrer un bon laboratoire. Les socialistes, souvenez-vous, avant 81, souvenez-vous des grands maire socialiste que l'on a eu, hein, Monroy et d'autres, enfin Dubedoux à Grenoble, Monroy à Lille, Chenard à Nantes. Bon, il y a eu des maires. Et je pense quand les gens en 1980, quand ils ont voté Mitterrand, ils se sont dit, mais c'est vrai qu'on peut leur faire confiance. Ces gens-là, c'est de bons gestionnaires des villes. Et moi, mon souci, c'est de dire, les écologistes, quand on leur confie des responsabilités, ils les exercent bien. Donc c'est pour ça que je veux bien exercer mes fonctions municipales. Je ne veux pas me disperser.
Sens politique. L'archive de l'invité.
Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi ? Ah, vous êtes libre de manger des bonnes choses. C'est vrai. Si vous avez l'argent, vous êtes libre d'avoir une auto qui vous permet de voyager. Vous êtes libre d'aller à l'autre bout du monde, de visiter Tahiti. Vous voyez, la technique vous permet d'être libre.
La voix du sociologue Jacques Ellul dans un documentaire néerlandais produit en 1992, 2 ans avant sa mort. Jacques Ellul a été votre professeur à Sciences Po Bordeaux. Pierre Urmic, c'est quelqu'un d'essentiel pour vous.
Oui, c'est plus que mon professeur. Je n'aime pas beaucoup la notion de maître, mais pour moi, ça a été un déclenchement. C'est à lui que je dois d'être écologiste, parce que déjà, dans ces années-là, il était l'un des précurseurs de la pensée écologiste en France. Et il m'a beaucoup marqué. Là, on est sur la technique, mais c'est vrai qu'Élu disait un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté. Et je pense que et pour la politique, même il a rajouté. Et je pense que il avait raison. C'est pas la, il disait, c'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transférait la technique. Et là, il avait, je trouve, cette pensée d'une modernité, d'une pertinence. Je l'avais déjà perçue dans ces années-là, mais maintenant, même avec au fil des ans, je me rends compte de la modernité de la pensée de Jacques Élu. Donc, je me définirais pas comme un disciple parce que, ou comme un disciple très indiscipliné parce que Élu détestait la politique. Et il nous décourageait à faire de la politique en disant si vous faites de la politique, vous prendrez le virus politicien, vous gérerez votre carrière politique comme un fonds de commerce. Et, en même temps, il nous disait exister, c'est résister. Et voilà, j'ai retenu cette partie de son discours. Exister, c'est résister. Pour moi, la politique, c'est la meilleure façon de résister à l'ère du temps.
Il y a un autre élève de Jacques Ellul, diplômé de Sciences Po Bordeaux comme vous, écologiste comme vous, qui a une immense importance dans votre engagement politique, puisque c'est le premier, c'est Noël Mamère.
Oui.
Vous
oui.
le rencontrez un peu par hasard, dans une voiture, alors que vous remplacez son avocat dans une affaire de diffamation.
Alors, je ne remplace pas son avocat, je suis son avocat. Il m'a chargé.
Mais vous ne vous connaissiez pas.
On se connaissait pas du tout. Il s'est renseigné à Bordeaux pour avoir un avocat qui spécialisait à l'époque en diffamation. Je plaidais beaucoup d'affaires de diffamation à ce moment-là. Et donc on lui a dit, ben il y a un jeune là qui plaide à la diffamation parce que c'était des affaires de diffamation qu'avait Noël Mamère au début de son mandat. Donc voilà, il est venu me voir. Moi, j'ai fait.
Il a sonné au cabinet Antigone.
Et on s'est trouvé beaucoup de proximité. On a gagné les procès. Et effectivement, à l'époque, ces procès-là étaient délocalisés. Il était maire de Bègles et les procès se sont passés à Toulouse. Donc, on a beaucoup discuté entre Bordeaux et Toulouse et sympathisé, préparé sa défense, naturellement, mais également sympathisé. Et voilà, je lui dois aussi beaucoup. Et c'est après, à l'époque, je n'étais qu'avocat. Et voilà, il m'a aidé aussi pour mes premiers pas en politique.
On est en 1990 et il vient de lancer Génération Écologie. Vous y adhérer.
Oui.
Ensuite, quand il célèbre son fameux mariage homosexuel 9 ans avant la loi sur le mariage pour tous, là vous ne le suivez plus, Pierre Urmic.
Il y a un autre moment que je n'ai pas suivi, c'est quand il a fait une lip, si vous allez au fond des choses, quand il a été sur la liste de Bernard Tapie aux européennes, il avait été avec d'autres, avec Kouchner, avec Christiane Taubira, on l'oublie aussi, et d'autres. Là, j'avais trouvé que voilà, on pouvait être en divergence. Après, sur le mariage, j'ai trouvé le tintamarre médiatique un peu à un moment donné un peu assourdissant, y compris pour lui. Hein. Je pense que cette affaire-là a donné des débordements de haine. Hein. Je me souviens qu'il a reçu des lettres aussi. Tout à l'heure, on parlait des lettres de menaces. Je me souviens qu'il en avait reçu à cette époque-là. Donc, j'étais tout à fait solidaire de Noël Mamère, mais c'est vrai que j'avais pu trouver le tintamarre médiatique un peu surdimensionné. Puis vous voyez que les choses ont évolué rapidement après. Mais Noël Mamère a toujours été un sonneur d'alarme. Donc, il a voulu le faire à cette occasion-là. Et quelques années plus tard, le législateur lui a donné raison.
Considérez-vous comme Jacques Ellul que votre foi est non négociable ?
Oui, elle est très profonde et non négociable. Oui, donc pour ça, je vous disais tout à l'heure, moi, je préfère la conscience à la consigne. Si je devais un jour obéir à une consigne qui serait contraire à ma foi profonde, mes convictions profondes, mon éthique profonde, mais je choisirais toujours la conscience plutôt que la consigne. Donc ça, c'est non négociable. Et parfois on se moque de moi. Mais peu importe, et Ellul a été pour ça, effectivement, un très bon maître. Tout l'aspect théologique de l'œuvre d'Ellul m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup conforté dans ma foi. En même temps, Ellul était un homme de foi, mais on disait que c'était un anarchiste chrétien, et comme il était protestant, on disait aussi, ça me plaît bien la formule, il était protestant chez les protestants. Donc voilà, la foi n'interdit pas, loin de là, l'esprit subversif. Et mais voilà, je trouve que c'est bien dans la vie d'avoir aussi des convictions, une spiritualité.
Comment avez-vous géré le texte sur le mariage pour tous en tant que catholique pratiquant et élu de la République?
Ben, je trouve que l'Église catholique s'est beaucoup crispée autour de cette solution, de cette proposition. Moi, j'aurais préféré qu'elle se crispe, je ne le cache pas, pour faire la promotion de l'encyclique Laudato Si quelques années plus tard. Je suis catholique et j'ai trouvé que sur ce terrain-là, l'Église catholique avait été plutôt défaillante dans la promotion de Laudato Si, qui est l'écologie intégrale telle que l'a promue le pape François, c'est-à-dire la crise qui est à la fois, enfin, l'écologie intégrale, c'est, si vous voulez, à la fois c'est le pape François qui le dit, le cri de la terre et le cri des pauvres. J'ai été très sensible par cet équilibre à l'intérieur de cette encyclique Laudato Si, et moi, de mon côté, en tant que catholique, j'ai essayé de la faire connaître, de la faire lire par des amis totalement athées qui ont été bouleversés, et voilà, j'aurais préféré qu'une plus grande mobilisation des ecclésiastiques de notre pays pour faire la promotion de ce texte qui est un texte fondamental, remarquable. Je crois beaucoup à l'écologie intégrale telle qu'elle a été promue par ce pape.
Parmi vos auteurs fétiches, il y a Charles Péguy.
Oui, ça aussi.
Qu'aimez-vous chez Péguy? Quelle modernité a-t-il à vos yeux?
Il m'a aidé à faire en sorte de ne jamais avoir ce qu'on appelle une âme habituée. Je trouvais chez Péguy notamment cette notion d'insurrection des âmes comme étant un moteur important dans la vie. Donc voilà, c'est un auteur qui m'a énormément apporté. Oui, je revendique aussi cette paternité intellectuelle de Charles Péguy. Le malheur des âmes habituées qu'il a dénoncé, je pense qu'il a raison. C'est la tyrannie de l'indifférence. Je trouve que ce qui est le pire dans notre monde, c'est la tyrannie de l'indifférence. Il faut, on en revient toujours à Ellul, exister, c'est résister. Et voilà, je pense qu'il y a entre Péguy, Ellul, Camus, Montaigne, voilà, je trouve des gens qui acceptent aussi de penser contre eux-mêmes. Je suis très adepte de l'hygiène du doute intellectuel. Je pense que le doute est pour moi une hygiène intellectuelle et morale. Et ce sont ces belles fréquentations là que je viens de citer, ces livres, qui m'ont aidé à cultiver cette hygiène intellectuelle et morale.
Merci Pierre Urmic, maire de Bordeaux, d'être venu dans Sens Politique. Et merci à toute l'équipe, à la préparation Anne-Claire Bazin, à la réalisation Perret Legras, à la technique Élise Leu, à la vidéo Valentin Bobinet. Vous pouvez réécouter l'émission et toutes les autres sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à la page de Sens Politique. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.